On continue l'étude sur les armes et la puissance de Dieu pour les chrétiens. Frères et sœurs, écoutez bien ce message-là. C'est pas parce que ça vient de moi, je vais vous le dire tout de suite. Ça aurait pu être n'importe qui le prêche. Où est-ce que ça devient? Ça vient premièrement de Dieu qui nous l'a laissé dans sa parole. Tout à l'heure, la parole que j'ai eue, ça me l'a dit. N'est-ce pas écrit dans ma parole, dans mon livre, dans le livre? C'est le livre de Dieu, la Bible. C'est le message, puis là-dedans, là, ça contient les plus grandes et les plus précieuses promesses de Dieu pour nous aider à marcher dans la nouvelle nature divine. Cette puissance-là qui a été promise, puis que Dieu veut répandre avec plénitude, pas juste un petit peu de l'esprit. Plénitude, ce qu'on va voir aujourd'hui, là, c'est la base du chrétien s'il veut marcher dans la victoire. On a parlé beaucoup d'armes à date, puis il y en a encore quelques-unes à parler. Mais celle que je vais vous parler aujourd'hui, je pense, c'est la base d'une révélation qui a été faite là, quelques centaines d'années. Puis depuis ce temps-là, ça s'est répandu. La puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. On l'a chanté un matin, mais c'est pas parce qu'on l'a chanté que c'est vrai. C'est parce que c'est écrit dans la parole que c'est vrai, dans le livre de Dieu. C'est ce qu'on va voir ce matin. On va prier. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on est rassemblés, puis je te remercie du temps qu'on a ce matin dans la louange, Seigneur, dans l'adoration, puis je te remercie aussi du temps qu'on va avoir à méditer ta parole, à réfléchir sur tout ce que tu nous as laissé comme promesse, puis comme message, comme enseignement. On est à l'école, puis on est ici pour s'instruire, pour connaître ta volonté, ta pensée, la pensée révélée par le Saint-Esprit. Parle à nos cœurs ce matin et... Amen. Agis pleinement pour qu'on ait la foi pour saisir tout ce que tu nous donnes. Par la foi pour qu'on puisse goûter encore plus de ce qui vient de toi dans le nom de Jésus. Amen. Ça, là, c'est pas une nouveauté que ce que je vais vous prêcher. Là. Le premier qui a commencé à prêcher sur le baptême du Saint-Esprit, savez-vous c'est qui? Jean-Baptiste. C'est lui qui a été le précurseur pour préparer le monde comme à la nouvelle alliance que Dieu avait préparée. Puis il avait été annoncé d'avance que Jean-Baptiste viendrait, puis qu'il viendrait comme prêcher dans le désert. Ça veut dire qu'il y en a qui écoutent, mais il n'y a pas gros de monde qui écoute ce message puissant-là qui vient de Dieu. Parce que c'est un message qui vient de Dieu. C'est annoncé dans l'Ancien Testament, avant que Jean-Baptiste vienne. Il y a des prophètes qui ont parlé de la puissance de Dieu qui sera répandue dans les derniers temps. Puis, Jean-Baptiste, lui, était comme le premier à prêcher cette promesse qui est venue du Père. Il est venu pour parler de Jésus, oui, mais il a prêché aussi de ce que Jésus était pour faire. Matthieu 3, 11, ça dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. » Et je suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Un revêtement du Saint-Esprit. Baptisé, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous donner en quelques exemples. Quand tu es baptisé d'eau, quand on est baptisé d'eau en tant que chrétien, le mot baptême veut dire immersion. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. C'est pas compliqué. Être immergé, comme un sous-marin qui rentre dans l'eau, il y a de l'eau tout le tour. C'est ça, être baptisé, dans le sens biblique. Fait que quand tu es baptisé d'eau pour ta conversion, tu vas dans l'eau, complètement enseveli dans l'eau, puis là, tu ressors de l'eau, heureusement. Mais baptisé du Saint-Esprit, c'est la même affaire. C'est pas juste recevoir l'Esprit pour une nouvelle naissance. C'est d'être revêtu, enseveli, immergé. Que le Saint inondé, que le Saint-Esprit il coule partout en toi et autour de toi, comme un verre d'eau. Tu peux mettre de l'eau dans un verre, mais quand tu prends le verre et tu le mets dans une chaudière d'eau, il n'y a pas juste de l'eau à l'intérieur. Automatiquement, il remplit le verre. Mais en plus, il y a toute l'eau qui le recouvre. Mais la promesse du Père, c'est une promesse du Père. C'est pas Jésus qui a inventé cette promesse-là. C'est le Père qui l'a annoncé d'avance dans les écrits de l'Ancien Testament, qui l'a révélé à Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste a été envoyé. Il dit, celui qui m'a envoyé a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Mais là, là, il avait été envoyé avec le message, mais il ne comprenait pas réellement la portée de tout cela, mais ça s'est tout fait par la suite. Puis là, tout de suite après, quand Jésus l'a eu, l'Esprit qui est venu sur lui, puis là, il a été revêtu de la puissance, il était loin pour son ministère. C'est là que ça a commencé pour le ministère. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Jésus est né du Saint-Esprit. Jésus est né du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a touché Marie, puis il dit, viens d'en haut. Il est le Saint-Esprit dans une manière de parler. Mais le revêtement de puissance, c'est suite à son baptême, quand il était tenté dans le désert, on va le voir dans d'autres versets un peu plus loin. Là, il a commencé à prêcher Jésus. Il a commencé à prêcher que le Saint-Esprit sera répandu dans tout le monde. Dans Jean 4,14, ça nous dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Une source d'eau qui jaillit. Avez-vous déjà essayé de retenir une source d'eau pour l'empêcher de couler? Ça pousse de l'eau d'une source qui sort de la terre. T'as beau mettre ta main, là, puis même si t'arriverais à mettre un bon bouchon, elle va se frayer un chemin à côté, puis elle va sortir. Pareil, il y a de la pression. Puis quand ça, il dit ça va sortir de nous, parce que ça vient du Saint-Esprit qu'on a reçu, qu'on n'avait pas avant notre conversion, mais qu'on a reçu, il est en nous pour demeurer éternellement avec nous. Mais là, il commence à jaillir, ça deviendra une source qui jaillira. Fait que ça sort d'autour de nous autres. Ça nous revêt, ça nous équipe, ça manifeste sa présence. C'est ça que le Saint-Esprit veut faire, manifester sa présence. Jean 7, 38, « Et celui qui croit en moi, c'est Jésus qui parle encore dans un autre verset, « des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son intérieur. » Des fleuves d'eau vive qui coulent. Puis qu'est-ce que ça fait de l'eau? Ça arrose. Quand tu as une source qui jaillit, c'est quelque chose. Déjà, être une source sans arrêt, tu arroses tout le monde autour. Puis quand tu es un fleuve, c'est encore bien plus puissant. Un fleuve, il n'y a rien pour arrêter ça. Essayez d'arrêter le fleuve Saint-Laurent pour le fun. Faites un barrage, c'est sûr que ça va déborder chaque bord. Faut que ça sorte. Même quand ils font un barrage d'Hydro-Québec, là, ils font un barrage. Mais il faut qu'ils en laissent sortir, ils peuvent pas arrêter l'eau complètement. Sinon, c'est sûr qu'elle passera par-dessus. Mais le Saint-Esprit, c'est ça, c'est un fleuve d'eau vive qui veut sortir de nous puis arroser les autres. Il veut pas être juste une goutte d'eau qu'on a reçue, là, puis se contenter juste d'une goutte d'eau. Il y a bien plus que ça. Vous pouvez être des sources et des fleuves d'eau vive qui va abreuver les gens qui vous entourent, qui va restaurer des gens qui ont soif, des gens qui cherchent. Vous êtes envoyés par le Saint-Esprit pour cette mission-là. C'est ce que Jésus a promis. Il dit, quand il dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jésus, quand il a ramené ça, c'est pas lui qui a inventé cette phrase-là. Il dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ça veut dire que c'est le Père qui avait fait une promesse de recevoir la puissance du Saint-Esprit, puis c'est annoncé d'avance dans les écrits de l'Ancien Testament. Verset 39 de ce même verset-là, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Êtes-vous de ceux qui croient en Jésus? Ben, vous êtes de ceux qui doivent recevoir cette puissance. C'est pour vous. Puis là, il dit dans la suite, « Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas été glorifié. » Ça ne dit pas que le Saint-Esprit n'avait pas été là du tout. Non, il était là. Le Saint-Esprit est là depuis le début de la création. Il agit au début, là, quand on voit la terre est informe et vide, puis l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit est là depuis le début, puis il a agi à travers des rois, des sacrificateurs, des prophètes. Il a choisi des personnes spéciales pour des ministères spéciaux qui ont été oints du Saint-Esprit, comme Moïse, il y avait le Saint-Esprit, les 70 qui ont reçu il y en a plusieurs des prophètes, Élie, Élisée, qui avaient le Saint-Esprit, puis ils ont parlé de la part de Dieu poussé par le Saint-Esprit. Puis les apôtres avec, c'était par le doigt de Dieu qui chassait les démons. C'est sûr que le Saint-Esprit était là, mais pas encore répandu comme l'avait annoncé la promesse. Parce que c'est encore beaucoup plus puissant que juste le recevoir. Plus puissant de ce qui s'est passé dans les prophètes antérieurement. Ce que Dieu propose, c'est une puissance qui nous accompagne pour être des témoins. Le baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est une deuxième expérience. C'est pas être né de nouveau. Je vais vous l'expliquer dans quelques passages. Parce qu'il y en a dans les églises, malheureusement, qui sont arrêtés à « Ah, ben moi, j'ai été baptisé d'eau, j'ai accepté Jésus, je suis pardonné, le Saint-Esprit est venu en moi, v'là 20 ans, 30 ans, puis j'ai jamais eu d'autre chose que ça, puis le gars s'arrête à ce niveau-là, puis il dit « C'est suffisant. » C'est vrai que tu reçois le Saint-Esprit quand tu te convertis. C'est vrai que tu reçois le Saint-Esprit. La Bible a dit, appelle ça la nouvelle naissance. Tu nais de nouveau. L'Esprit vient en toi, tu as une nouvelle nature qui s'installe en toi. Il est là pour demeurer éternellement. Mais il y a plus que ça. Un revêtement de puissance pour être un témoin. Vous allez voir que les disciples, bien qu'ils ont fait des miracles par le doigt de Dieu, Jésus, après sa résurrection, le premier jour de sa résurrection, il est allé voir ses disciples. Jean 20, 21. Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. » Il dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » On voit dans ce passage-là, le premier jour, c'est pas, on s'arrête pas là. Déjà, à partir du premier jour, il s'est passé quelque chose dans les disciples. Ils ont reçu une touche du Saint-Esprit de plus de qu'est-ce qu'il y avait, parce que Jésus a dit, il faut que j'y aille au Père, puis après ça, vous allez pouvoir le recevoir pleinement là, en vous. Et ils l'ont reçu en soufflant sur eux. Est-ce que ça s'arrête là? Non, ça s'arrête pas là. Parce qu'il aurait pu dire, oui, Seigneur, tu me l'as donné quand tu as soufflé sur moi. Non. Jésus continue. Ça, c'était le premier jour. Vous allez revoir, juste au-dessus de ce verset-là, ça le dit, le premier jour, après sa résurrection, il est allé voir. Puis là, il lui dit qu'il a soufflé sur eux. Après ça, il y a le dernier jour qui leur a apparu, 40 jours plus tard, parce que Jésus a apparu pendant 40 jours. Ça veut dire 39 jours plus tard. Acte 1, 4. Jésus a réapparu encore à plusieurs reprises, mais là, c'était la dernière fois, juste avant de monter au ciel, puis qu'il disparaisse des nuages dans l'ascension. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean... Il a baptisé d'eau, mais vous, dans plus de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il venait de le donner le premier jour de sa résurrection. Il venait de souffler sur eux. Mais Jésus, il dit, c'est pas encore l'accomplissement de la promesse. La vraie promesse, c'est d'être baptisé, un revêtement de puissance. Que le Saint-Esprit soit pas juste là, mais que ça jaillisse, puis que le fleuve tantôt, puis ça coule à flot. Alors les apôtres demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur dit, « C'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, ce qui est pour vous là, aujourd'hui, il y a 2000 ans qu'il leur disait ça, là, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. » Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette promesse-là est encore pour aujourd'hui, frères et sœurs. On est aux extrémités de la terre, puis on n'a pas encore vu la porte de la grâce être fermée. On est encore dans le temps de la grâce. Jésus n'est pas revenu chercher son Église encore. Fait que, on est encore dans la période où ce que cette promesse-là s'applique. Peut-être que vous êtes né de nouveau, que vous avez reçu le Saint-Esprit à votre naissance. Les disciples aussi. Les disciples aussi, Jésus avait soufflé sur eux. Mais c'est pas suffisant. Si tu veux être un témoin, c'est ça que ça dit. Et vous serez mes témoins. Pour être un témoin, faut que tu aies de la puissance sur ta vie. Le royaume de Dieu consiste pas qu'en parole, mais en puissance. Le Saint-Esprit qui survient, qui vient sur vous, ça s'appelle baptisé du Saint-Esprit, revêtu. Là, les disciples, quand ils ont eu cette promesse-là, ils avaient tous été touchés par, en recevant, mais ils en voulaient plus. Là, ils se sont mis à prier, puis ils priaient, puis ils priaient, parce qu'ils attendaient la promesse du Père. Il dit dans le verset 8, 4, ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, ils voulaient avoir ce que le Père avait promis, un revêtement de puissance. Ils en ont vécu des choses puissantes quand Jésus était là. Il était comme sous la couverture de Jésus-Christ dans cette période-là, avant que Jésus meure. Il était sous Jésus nous avait donné la puissance de marcher ses démons puis de guérir les malades. Mais il marchait sur la couverture, mais il faut que je m'en aille, puis il est avantageux que je m'en aille, parce que là, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Puis là, ça va être puissant, puis vous ferez des œuvres encore plus grandes que qu'est-ce que j'ai fait. C'est écrit. C'est pas par nous, c'est par la puissance du Saint-Esprit qui va venir sur nous. Puis là, ils se sont mis à prier, puis ils voulaient cette puissance-là. Hein? Dans Acte 2, quand ils l'ont reçu. C'est 10 jours plus tard, parce que là, Jésus, après sa mort, c'était à la journée de Pâques. Pendant 40 jours que la Bible nous dit, il est apparu à ses disciples. C'est le 40e jour qu'il est monté en ascension. Puis, le baptême du Saint-Esprit a tombé à la Pentecôte, qui est 50 jours après Pâques. Ça veut dire que les disciples ont prié 10 jours de temps à intercéder. « Seigneur, donne-nous ta puissance! » On l'a chanté tantôt, le chant. « Seigneur, donne-nous ta puissance! Baptise-nous de ton feu! » C'est ça qu'ils priaient. Ils voulaient avoir. Jean-Baptiste nous avait dit, « Vous serez baptisés d'Esprit-Saint et de feu! Seigneur, donne-nous ta puissance! » L'Esprit-Saint, baptise-nous de ton feu. C'était ça la prière des disciples. Sans cette prière-là, mettons s'il sera parti, ben là, on s'en va, Jésus, on n'a pas le temps d'attendre après ça, on va aller évangéliser. Ça n'aurait eu aucune efficacité. Jésus leur a dit, vous voulez être des témoins, vous avez besoin de cette puissance-là qui vous équipe, puis attendez-la, sortez pas de Jérusalem tant que vous l'avez pas reçu. C'est ça que Jésus leur a dit. Là, ils ont prié, puis c'est à ça qu'ils comptaient plus que n'importe quoi. Je sais pas s'ils ont été mangés ou dormés, mais 10 jours de temps, ça devait intercéder. On l'a vu, Jésus est ressuscité, on l'a vu, là. Là, il était comme avec une pleine assurance que Jésus, il était ressuscité, on l'a vu pendant 40 jours, puis il nous a dit d'attendre. Là, pas question qu'on fasse d'autres choses. On l'attend, puis on le demande, puis on le demande, puis on le demande, puis on le redemande, puis on lâche pas de le demander. Ça, c'est de la persévérance dans la prière. Contrairement à des fois, on demande une affaire et on ne le demande plus après, pendant 6 mois. 10 jours de temps. Est-ce que Dieu a fait des promesses et qu'il n'a pas l'intention de les donner? Non. Dieu a fait une promesse et avait l'intention de la donner, mais il s'attend à ce qu'on ait soif de l'avoir. Ils ont demandé, ils ont aspiré, ils l'ont désiré, ils l'ont intercédé pour l'avoir. Acte 2, juste un petit peu plus loin, 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, puis tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, une tempête dans la maison. Un vent impétueux, là, c'est comme une tornade. Ça, c'est impétueux. Un ouragan bizarre. Imaginez de quoi d'un vent, là, pas juste un petit vent, ça c'est une petite brise. Un vent impétueux, c'est quelque chose qui brasse, ça peut te tosser de toute ta chaise. Tu peux même qu'il y en a dans des vents impétueux qui sont partis au vent avec la tempête. Ils y retrouvent 1 kilomètre plus loin. Mais là, la puissance de l'Esprit Saint s'est fait entendre parce que ôtez-vous de là, c'est moi qui arrive. C'est ça que le Saint-Esprit a voulu manifester. Je suis là, puis c'est évident que l'esprit de puissance descendait, le vent tout revolait peut-être dans la chambre, ça le dit pas là, mais il était 120 dans cette réunion de prière-là que la Bible nous dit, 120 personnes, oui, juste un peu avant, ils étaient 120 réunis dans la chambre haute à prier, quelques versets avant. Puis là, là, il dit, et le bruit comme celui d'un vent impétueux remplit toute la maison où il était assis. Le vent était dans la maison. Des langues semblables à des langues de feu. Là, il n'y avait pas juste des effets de bruit puis de sentir le toupette qui nous relève. Il y avait des langues de feu. Là, c'était des visions que tout le monde a eues. On commençait à avoir des visions. C'était pas juste le savoir qu'il se passe quelque chose. Ils ont vu visiblement des langues de feu descendre. Fait que quand Dieu fait des miracles, c'est visible. Il peut se passer des miracles visibles, invisibles, mais c'est un miracle pareil. Puis là, des langues de, semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, puis se posèrent sur chacun d'eux. Qu'est-ce qui s'est produit à partir de ce moment-là? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, puis se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, le vent, les langues de feu, wouhou! Puis là, rempli du Saint-Esprit, puis là, ils sont en parlant en langue. C'était quelque chose qui était même pas connu, ça, le parlant en langue. C'était pas une affaire qui était même annoncée dans un verset, sauf que certains versets que Dieu a dit, je vais leur parler avec une langue étrangère, puis ils écouteront même pas, dit le Seigneur. Fait que, le point est que c'était pas comme une promesse écrite sur noir sur blanc, vous mettrez à parler en langue en recevant le Saint-Esprit. C'était pas écrit, mais ça s'est manifesté quand même. Dieu, il est pas contre certaines affaires, mais tant que ça reste dans la bienséance et dans l'ordre, puis je veux pas aller jusque dans ce domaine-là. Mais ils furent remplis du Saint-Esprit, puis se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit se donnait de s'exprimer. C'était tellement puissant qu'est-ce qui s'est passé là, qu'il n'y a pas juste eux autres qui ont entendu ça. Au bruit que ça a fait, les autres de la ville, il y avait une grosse fête à Jérusalem, il était 3000 dans Jérusalem, qui se sont accourus pour venir devant ce perron-là. Ça, c'était la chambre haute, c'était au deuxième étage. Puis là, il devait avoir comme une ouverture, un châssis ou un balcon au deuxième. Puis là, il a sorti pour aller leur parler. Tout le monde, au bruit que ça a fait, là, c'était pas le bruit de les entendre chanter ou parler en langue, là. C'est le bruit du vent impétueux. La manifestation surnaturelle de Dieu a attiré les gens comme des mouches proches d'une lumière. Non, ou des maringouins, ou des mannes. En tout cas, comme des bébites qui sont attirées. Qu'est-ce qui se passe quand tu es baptisé du Saint-Esprit? Ils furent tous remplis. Ça veut dire que les chrétiens qui sont pas baptisés du Saint-Esprit marchent pas dans la plénitude. Des fois, la tink, le niveau, il est bas dans la tink. Quand on marche charnellement, là, quand on vit charnellement, là, on n'est pas rempli. Mais à partir du moment que tu l'es, tu vis un moment de plénitude. Puis là, il se passe des choses extraordinaires. Qui peut recevoir cette promesse-là? Qui peut recevoir le Saint-Esprit? C'est pour qui, cette promesse-là? Est-ce juste pour une élite? Est-ce que c'est juste le pasteur? Parce qu'il y en a des églises, le pasteur, il manifeste tous les dons, puis il n'y a personne dans l'église qui a rien. Mais c'était pas ça le plan de Dieu. Dans Actes 2, 38, quand que Pierre est en train d'expliquer ça à tous ses disciples, puis aux gens qui étaient là devant, tout le monde était là, Pierre leur dit, les 3000 qui étaient là, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Là, ça veut dire qu'il est en train de le dire, « Vous autres aussi, vous pouvez le recevoir, si vous vous repentez, que vous faites baptiser au nom de Jésus-Christ. Engagez-vous, convertissez-vous. » Ça se dit en d'autres mots. « Repentez-vous, convertissez-vous, vous allez le recevoir, vous autres aussi, le Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Les adultes comme les enfants. Ceux qui ont la foi, qui veulent l'avoir, que tu, même si tu règnes 12 ans, tu veux le baptême du Saint-Esprit, demande-les. Tu vas vivre la puissance de Dieu qui va rentrer dans ta vie puis qui va te revêtir, puis tu vas, il va se passer que tu vas, tu peux pas, tu, on va le voir dans plusieurs versets, les signes extérieurs. Parler en langue, prophétiser, louer, glorifier Dieu. Ah, fait qu'il y a, il y a des pasteurs qui ont déjà témoigné qu'ils l'ont eu à 4 ans, mais il fallait que ça ait réveillé pour comprendre ça. Oui. Que s'est-il passé quand ils l'ont reçu? Ben, dans ce passage-là, acte 2, 4, ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça veut dire quand t'es rempli du Saint-Esprit, là, t'es revêtu, le Saint-Esprit utilise ta bouche puis pousse à parler en son nom. Comme dans l'Ancien Testament, poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est que tu l'as entoué, puis lui, il a un message à faire, puis t'es poussé. C'est, ah ouais, dis-le, ça pousse, là, il dit en ces mots. Mais eux autres, ils se sont mis à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui venait de les pousser, puis leur donner de s'exprimer en d'autres langues. Puis les gens qui étaient là, qui venaient de différents pays, comprenaient le langage dans lequel ils parlaient. Ils entendaient par Mède, Mésopotamie, il y a du monde qui venait de partout, avec des langages différents dans tous ces territoires-là. Ils entendaient les disciples parler dans leur langue maternelle. Tout le monde était étonné de ce miracle-là. C'était dans le but de les amener à la repentance. Le Saint-Esprit sait quoi faire pour toucher les gens par la manifestation de sa puissance. Il peut dire une parole, puis l'autre, c'était la parole qu'il fallait qu'il entende. Ça dit, il était étonné de les entendre dans leur langue maternelle. C'est quelque chose, ça, c'est puissant. Eux autres, ils n'ont pas été à l'école, ils disaient, ah, ben moi, je vais apprendre le langage de la Mésopotamie, puis là, commencer à parler aux autres. Non, le Saint-Esprit, quand il est venu, ça s'est manifesté. Il y a eu d'autres passages dans la parole de Dieu où il y a des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, puis il s'est produit d'autres signes extérieurs. Acte 10, 45. Là, on parle de l'histoire de Corneille. Corneille, qui est un païen, qui est une personne qui craignait Dieu, puis qui faisait beaucoup de monde. Il priait Dieu, mais il n'était pas sauvé. Il priait Dieu, mais il n'était pas sauvé. Là, il y a un ange qui est apparu, il a dit, tu vas aller à les voir, tu vas à telle place, puis tu vas trouver un personnage qui s'appelle Pierre, puis il va t'expliquer parole par lequel tu seras sauvé. Fait que là, il envoie ses serviteurs, ses amis, puis aller le chercher, puis amener-les, c'est important qu'on entende ce qu'il a à dire. Il était déjà ouvert à recevoir le message de Dieu. Puis là, Pierre, comme en rentrant là, il dit... Oui, il y a eu des visions, mais je veux pas parler de sa vision, mais je veux juste dire que là, Pierre est rentré dans cette maison-là, guidé par le Seigneur, c'était dans le plan de Dieu que ça se produise. Puis là, il est arrivé dans cette maison-là, puis il a commencé à lui expliquer que Dieu fait pas de distinction de personne. La promesse était pour nous, mais aussi pour les païens. Parce qu'il dit, quand j'étais en train de lui parler, le Saint-Esprit est tombé sur eux comme nous. Il dit, dans Actes 10, 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Là, Pierre, il a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Fait que c'était évident que les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, ça se voyait. Tout le monde était étonné. Si tu nais de nouveau dans une prière de repentance, là, tu fais la prière, tu crois que tu es né de nouveau. Tu as reçu la nouvelle naissance. Il se produit pas tout le temps quelque chose quand tu nais de nouveau. Tu nais de nouveau, tu marches par la foi que tu as cru au sacrifice de Jésus, tu as confessé que tu y croyais, que son sacrifice était pour ta vie, que tu étais un pécheur, puis que Jésus, son sang, était versé pour que tu puisses être pardonné. Il est ressuscité, tu crois ça, tu le confesses, puis là, tu acceptes Jésus-Christ, puis tu t'engages à le suivre, puis à le servir. Il te donne le Saint-Esprit. Il ne se passe pas tout le temps quelque chose quand tu nais de nouveau. Mais quand que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, il se passe quelque chose. Les premiers disciples se sont mis à parler en langue. Corneille se sont mis à parler en langue et glorifier Dieu. Des louanges sortaient. Alléluia, gloire à Dieu. Les louanges, quand t'es rempli, ça sort, ça jaillit. La gloire à Dieu. Puis dans Acte 19:6, un autre passage qui nous parle de d'autres personnages qui ont reçu, c'est les disciples de Jean-Baptiste. Il lui a dit, là, Paul avait un doute révélé sûrement par le Saint-Esprit. Il regarde ses disciples-là, il dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes convertis? » Il dit, « On n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême vous avez été baptisés? » Il dit, « Du baptême de Jean. » Ah, Jean, il a fait le baptême pour nous amener à repentance. Puis là, il les a rebaptisés dans le nom de Jésus. Après, Paul leur a imposé les mains. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a été imposé des mains? Lorsque Paul leur eut imposé les mains, Acte 19:6, le Saint-Esprit vint sur eux, puis il parlait en langue, puis il prophétisait. Amen. Là, c'est encore le parler en langue, mais aussi des prophéties. On voit là que, faut faire attention, on a déjà entendu que le baptême du Saint-Esprit, le signe initial, c'est le parler en langue. C'est pas juste. C'est pas vrai. C'est pas uniquement. C'est un des dons. Dans les trois exemples qu'on vient de là, ça c'est trois exemples, il n'y en a sûrement pas d'autres que je vois vitement même dans les actes, là. Mais dans la vie, il y en a qui ont peut-être juste prophétisé. Mais là, ça dit qu'il parlait en langue et prophétisait. Là, dans l'autre passage, il dit, il parlait en langue, mais il louait Dieu. C'est que la plénitude, elle se manifeste parce que c'est le Saint-Esprit qui distribue ses dons comme il le veut. L'important, c'est de l'être rempli et revêtu. Là, le Saint-Esprit va se manifester comme il le veut. Fait que, à un, il dit, pas même dans ses enseignements, il dit, est-ce que tous parlent en langue? Est-ce que tous prophétisent? Est-ce que tous ont le don de guérison? Non, c'est pas tout le monde qui l'a. Mais le Saint-Esprit, il opère les dons comme qu'il le veut. Fait qu'à un, il peut donner la prophétie, un autre le parler en langue, un autre l'interprétation, un autre... C'est qu'il donne des dons spirituels. Aujourd'hui, je parlerai pas des dons spirituels, mais je veux qu'on parle au moins d'être baptisé du Saint-Esprit puis d'être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième expérience qu'on doit vivre. Je dis deuxième, c'est pas toujours la deuxième. Pour certaines personnes, il y en a qui se sont convertis puis ont été baptisés du Saint-Esprit à leur conversion. Ça arrive que c'est leur première expérience. C'est pour ça qu'on peut pas généraliser. Mais mon expérience, elle s'est faite en deux étapes. J'ai été né de nouveau, j'ai vécu des choses avec Dieu par la nouvelle naissance. Puis un jour, quelques années plus tard, je ne savais même pas qu'il y avait un baptême du Saint-Esprit. Quand j'étais dans l'église, là j'étais comme en conflit dans mon esprit parce que j'étais dans une église baptiste quand j'ai accepté le Seigneur, puis prêchais contre le baptême du Saint-Esprit, puis contre les dons spirituels. Fait que dans ma tête, en partant, je savais que c'était dans la Bible. Puis là, j'entendais juste des choses négatives. Quand j'étais allé dans une église Pentecôte, là, j'entendais d'autres choses. Ce que j'ai fait, j'ai dit à Dieu, « Seigneur, on enlève tout ce que j'ai appris. Je veux lire la Bible, puis je veux que tu me montres dans la Bible ce qui est écrit. » C'est ça que j'ai dit tantôt. « N'est-ce pas écrit dans mon livre? » Là, tu commences à lire. Le Seigneur me montrait des versets, puis il me montrait d'autres versets, puis là, ça me frappait. Là, la pensée s'est bâtie, puis, quelque temps après, j'étais dans l'église en train de louer le Seigneur dans une réunion, parce que on chante des chants pour louer le Seigneur. Puis ça me saisit, ça me remplit, puis là, les mots sont venus pour sortir en d'autres langues. Ça s'est fait tout seul. Sauf que je me suis aperçu qu'on pouvait résister. Parce que quand ça a commencé, moi, j'étais un gars qui est assez... pratique. Je suis un peu théorique, mais je suis pratique. Quand j'ai senti que c'était là, puis ça commençait, wow, c'est quoi ça? Je me suis arrêté pour réfléchir. Je me suis comme arrêté. J'ai compris, parce que là, j'ai fait le lien, bon, ça disait ça dans la Bible. J'ai compris que la poussée de l'Esprit de me faire parler en d'autres langues, c'était le baptême du Saint-Esprit. Je dis ça encore pour un autre exemple, parce que ça peut arriver qu'il y a des gens qui ont peur d'être baptisés du Saint-Esprit. Qu'il y a des chrétiens qui ont peur, parce qu'ils ont tellement entendu souvent que, c'est des démons, le parlant en langue, c'est des démons qui sont là. Puis là, tu n'es plus en contrôle de toi, tu es rempli, tu te mets à louer le Seigneur, tu es hors de contrôle, parce que les premiers disciples, tu vois, ils avaient l'air des gars ivres. Tu sais, quand t'es rempli de l'esprit, ils sont pleins de vin doux. C'est comme si ça donne l'impression que t'es pas en contrôle, fait que le monde, ils se convainquent eux-mêmes par des raisonnements et entre eux autres, entre chrétiens qui croient, qui veulent pas perdre le contrôle parce que c'est des gens qui veulent contrôler l'Église. Puis là, ils retiennent. Puis c'est pour ça que Paul a dit, n'éteignez pas l'esprit. Parce que le Saint-Esprit veut se manifester. S'il vient pour passer dans ta vie, est utilisé en donnant une parole ou une poussée de parler en langue ou une prophétie, retiens-les pas. N'éteignez pas l'Esprit. Si Paul dit ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont peur. Ils se retiennent. Puis ils vont aimer mieux se cacher. Parce qu'ils ont peut-être honte. Ils ont peut-être honte de prendre position publiquement après avoir parlé contre pendant tant de temps. Puis là, ils ont peur de revenir sur leur position, puis sur leur théologie qui est ébranlée. Parce que ces gens-là, Dieu veut les baptiser. La promesse est pour eux puis pour leurs enfants. Il veut que tous ceux qui ont été appelés au salut puissent goûter la puissance de Dieu. Il y a aussi ça. C'est ça que ça revient un peu à ce que je disais. Oui. Ils veulent pas se soumettre parce qu'ils veulent garder le contrôle. Ils se sentent en sécurité quand c'est eux autres qui mènent. Mais de savoir que le Saint-Esprit les amène à cela, ils perdent le contrôle d'eux-mêmes. Puis de laisser l'Esprit opérer, ça prend de la foi. Ça prend de la foi pour l'aspirer. Ça prend de la foi aussi pour oser. Pensez-vous que c'était tout le temps un party pour les premiers prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Il y en a qui se sont fait tuer à cause qu'ils parlaient dans le nom de Dieu. Si on serait sur un coin de rue dans un pays musulman, un exemple, puis là, le Saint-Esprit nous saisit par la langue, ou commençait à prophétiser que Jésus-Christ est vivant, puis qu'il est ressuscité, puis que Dieu les appelle au salut, tu peux risquer des fois à perdre la vie dans certaines conditions. Les premiers disciples, là, tous les pharisiens et les sadducéens se sont mis là pour empêcher les disciples de répandre le message. Fait qu'il fallait qu'ils soient remplis de la puissance pour pouvoir avoir le front d'y aller quand même, puis de mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Fallait qu'ils soient remplis, puis ça le dit dans plusieurs passages, Paul rempli du Saint-Esprit, fixa les... Tu sais, il a dit des phrases dans « rempli du Saint-Esprit », puis la puissance de Dieu s'est manifestée.
Ils sont pêchés en prison à plusieurs reprises.
Oui, c'est ça. Parce que ils savaient que c'était biblique, puis peu importe ce que le monde religieux pense, parce qu'il y a des chrétiens religieux, on se frappe un mur avec les doctrines pour nous empêcher d'avancer dans la foi et d'expérimenter la puissance de Dieu. Faut pas se laisser arrêter ni par les religieux, ni par les gens du monde. Même si ça sera votre femme ou votre mari qui vous dit... Arrête de parler en langue, là. C'est fatigant, ça m'énerve. Ouais, ça peut arriver, parce que Paul, il parle de prier en langue, puis prophétie. Fait que, tu vois que ça peut arriver, mais il faut pas se laisser arrêter. C'est écrit, Seigneur, je le veux, je veux le recevoir. Il y a d'autres manifestations qui se produisent à part de parler en langue, puis de prophétiser. Oui. Parce que la promesse de Joël qui était écrite « Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit », qui était la promesse du Père, annoncée par Joël, accomplie dans les Actes, c'est ce verset-là que Pierre a repris pour dire « C'est l'accomplissement de la promesse de Joël ». Acte 2, 17, il est en train de nous lire le passage. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Vos fils et vos filles prophétiseront. On voit qu'une des conséquences d'être baptisé du Saint-Esprit, tu peux prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions. Une des conséquences, c'est d'avoir des visions. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme vision à Pentecôte? Des langues de feu. Ils ont vu des langues de feu. C'était pas physique humain, celle-là. J'en ai jamais vu de ma vie, des langues de feu. Mais le Saint-Esprit en a manifesté. C'est une vision, celle-là. L'Esprit voulait parler de la langue de feu qui est possible par le Saint-Esprit. Puis là, c'est ça d'être baptisé de feu. Il a fait même l'image de la langue en feu. Vos vieillards auront des songes. Fait que je peux avoir des songes. Non, mais ça dit des vieillards, mais ils disent pas quel âge qu'ils sont. Ça veut dire que la puissance de Dieu, c'est des songes. Ça veut dire, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux avoir des rêves la nuit, poussé par le Saint-Esprit, puis tu peux avoir des songes le jour. Oups, t'es comme quand tu tombes assoupi, puis là, oups, t'as un songe, t'as une révélation, Dieu te parle. Ça m'est déjà arrivé. Ça dit, oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Puis là, il dit, Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Je ferai paraître des prodiges dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, puis même des signes de Dieu, du sang, du feu, puis une vapeur de fumée. Puis il dit, tout ça, là, c'est des signes de sa puissance avant son retour. Avant son retour. Parce que ça le dit bien, que tout ça, ça va se manifester avant son retour. Oui. Oui, fait que déjà, humainement parlant, peut se passer des phénomènes inhabituels. Mais quand tu es dans le Saint-Esprit, puis tu es baptisé du Saint-Esprit, il y a des phénomènes inhabituels. Quelque chose d'invisible qui te saisit, qui te remplit, qui te revêt, puis il manifeste sa puissance, des prophéties, des parlants en langue, des songes, des visions, des miracles, des prodiges. Tout est possible par la puissance de Dieu. Est-ce une expérience unique et permanente? Bonne question. Ah, ben moi, il y a 32 ans, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Oui, oui, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il en est pour aujourd'hui? Parce que des fois, on a déjà été rempli de l'Esprit, puis on pense que c'était suffisant. Acte 4, 31, ça nous parle des disciples qui étaient en train d'évangéliser, puis là, ils venaient de se faire des menaces. Puis là, ils ont dit, on prie, là, ça nous prend de la force. Ça nous dit, là, ils ont sûrement prié Dieu. Puis ça nous dit, quand qu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Puis ils furent tous remplis du Saint-Esprit, puis annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Il y a eu un tremblement de terre. Hey, c'est puissant, ça, là. Les signes sont... Dieu peut faire n'importe quel signe physique, manifestation surnaturelle. Mais ils ont été encore remplis du Saint-Esprit. C'est ça que je veux en venir. Le fait d'avoir été baptisé à la Pentecôte ne les avait pas remplis d'une manière permanente. C'est pas une expérience unique. C'est quelque chose de renouvelable. Comme une tank à gaz qui se vide, t'as rempli, elle se revide. Spirituellement, c'est la même affaire. Paul nous enseigne aussi dans Éphésiens la même affaire. De nous entretenir pour être rempli. Une fois que tu l'as reçu, oui. Après ça, entretiens-toi pour te maintenir rempli. Éphésiens 5, 18, ça dit, « Enivrez-vous pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, puis rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Fait que le baptême du Saint-Esprit, d'être rempli, c'est pas une expérience unique. Ça dit, entretenez-vous pour l'être. Soyez rempli, c'est une chose qu'il faut que tu recherches continuellement. Oui. Pourquoi que... est-ce que c'est une expérience juste pour les chrétiens? Jésus aussi a été baptisé du Saint-Esprit. Saviez-vous ça? Ben oui. Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, ça dit, tu regardes dans Luc, là, au début de Luc 4, ça dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, elle est dans le désert pour être tenté par le diable. Quand il est sorti, ça dit, revêtu de la puissance de l'Esprit, là, il y a là en Galilée, puis sa renommée s'est répandue, parce que son message, sa prédication, son témoignage, ses miracles, ses signes et prodiges, c'était par la puissance du Saint-Esprit qui était sur lui. Quel est le but pour nous autres? Quel était le but pour Jésus-Christ d'avoir été baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi que Jésus l'a été baptisé? Parce que Dieu veut nous montrer que c'est l'Esprit Saint seul qui peut faire de quoi d'efficace dans notre vie. Quand Jésus l'a reçu, dans Luc 4, 18, c'est Jésus lui-même qui l'a dit de sa bouche en lisant un passage des Écritures qui était écrit à son sujet. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, revêtu, baptisé du Saint-Esprit, parce qu'il m'a oint pour... » Là, il annonce, c'est quoi son ministère? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. La prédication et les guérisons, puis les délivrances du corps ou de l'âme, ça vient par la puissance du Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit est sur moi pour ça. Si Jésus c'était ça, faut pas penser, frères et sœurs, qu'on peut vivre notre vie chrétienne sans cela. Pour quel but que Jésus nous demande de le recevoir, nous? Ben, dans Actes 1, 8, il nous le dit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, sur vous, et vous serez mes témoins. Vous voulez être des témoins de Jésus-Christ? Ça prend la puissance de Dieu. Paul, dans un dernier verset, il dit que le Saint-Esprit veut nous équiper de sa puissance pour être efficace dans notre service. On veut-tu voir l'Église comme un club social, puis qu'on a du plaisir, puis on se donne de la nourriture, on chante des beaux chants, puis on est content de s'avoir vu. C'est beau, cette partie-là, c'est correct. C'est dans le plan de Dieu qu'il est bon que les doubles des frères demeurent ensemble. Oui, la communion fraternelle, c'est correct, puis c'est biblique, puis Dieu veut qu'on l'ait. Mais quand on vient à la réunion dimanche, c'est aussi, pas juste pour la communion fraternelle, c'est aussi pour qu'est-ce qu'on va recevoir de Dieu et qu'est-ce qu'on va voir de Dieu se manifester dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs. Parce que les dons spirituels dans l'Église, c'est donné pour l'utilité commune, pour que tout le monde puisse recevoir selon leurs besoins. On a besoin de voir des dons de guérison, des dons de miracles, les prophéties pour consoler nos cœurs. Paul, il dit, dans 1 Thessaloniciens 1:5, je termine avec ce verset-là, il dit, « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. » Quand Paul prêchait, c'était pas juste des mots. C'est correct des mots, parce qu'ils peuvent pas croire sans entendre. C'est ça que tu nous dit dans Romains. Mais c'est pas juste des mots, c'est pas juste en parole, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. C'était dans la conviction de Paul que c'était nécessaire que quand tu veux prêcher l'Évangile, ça prend la présence et la puissance du Saint-Esprit. Puis ton témoignage, quand tu prêches, c'est pas juste des paroles, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit dans les cœurs. C'est tout ça qu'on veut, frères et sœurs. On veut-tu une Église sans la puissance du Saint-Esprit? Ça l'existe. Ça l'existe. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, ça dit que Jésus était à la porte de cette église-là. Elle, cette église-là, elle se disait, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai pas besoin de rien. Puis Dieu, il dit, tu sais pas que t'es pauvre, que t'es misérable, que t'es aveugle, que t'es nu. C'est là qu'il dit, je te conseille d'acheter de moi. T'as besoin de moi. Puis là, Jésus, il dit, je me tiens à la porte, puis je frappe, puis j'aimerais ça rentrer. Puis il dit, celui qui va m'ouvrir, je vais manger avec lui. On veut-tu une église, hein? Juste avec des frères et sœurs où on veut une église avec la puissance de Dieu et des signes, des prodiges, des miracles. Frères et sœurs, si vous l'avez reçu avant le baptême du Saint-Esprit, mais que vous ne vivez plus dans les dons spirituels, il faut être renouvelé, il faut être encore rempli du Saint-Esprit. Il faut prier encore pour que ça se manifeste encore. Puis si vous ne l'avez jamais reçu, avancez-vous en avant, on va prier pour vous, comme Paul a prié pour que ces personnes-là le reçoivent, le Saint-Esprit avec puissance, puis il est tombé sur eux, puis se sont mis à parler en langue, à prophétiser. Avancez, c'est un signe de foi, c'est un signe que vous avez soif, c'est un signe que Dieu nous montre dans sa parole, qu'il veut que vous ayez le Saint-Esprit, parce que cette promesse-là est pour tous ceux que le Seigneur a appelés pour son salut. Avancez, on va chanter un autre chant. Puis, ceux qui ont l'impression que ça c'est, ils l'ont vécu, mais c'est plus là. Ils se sentent sèches, vides, ils ont besoin d'être renouvelés. Avancez-vous aussi. Puis quand on va chanter ce chant-là, faites-le comme une prière. Faites-le comme une prière.
3,91. Je vais juste ajouter quelque chose tant que tu te prépares. On parlait de force tantôt. Puis si vous regardez dans Jean, 20e chapitre, verset 19, ça dit, le soir de ce jour qu'il était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. La porte était barrée, il y avait peur des Juifs, il y avait peur de sortir. Puis regardez bien un petit peu plus loin, ça dit dans le acte 2, au verset 4, et après que Jésus a réparu encore une fois, il était encore enfermé, les portes barrées. Il attendait, c'est vrai qu'il avait eu l'ordre d'attendre, c'est vrai. Mais ils avaient peur de sortir aussi, parce qu'ils étaient sans puissance, ils ne pouvaient pas non plus. Dans le verset 4 de Acte 2, ça dit, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues. » Ils ont reçu la puissance de Dieu. Et regardez bien dans le verset 14 du chapitre 2 dans Acte encore. Là, il était barricadé. Les portes fermées, on va dire, portes barrées. Il avait peur des Juifs. Et dans le verset 14, ça dit, « Alors Pierre se présentait, après avoir été rempli du Saint-Esprit, alors Pierre se présentait avec les 11, élevait la voix et leur parlait en ces termes. Hommes juifs! » Là, il lui annonçait la parole de Dieu, la puissance de Dieu, parce qu'il y avait l'onction. Parce qu'il y avait la puissance de Dieu pour les affronter. Il n'y avait plus de crainte. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la crainte, elle s'en va. La gêne s'en va. Nos faiblesses s'en vont parce qu'on est rempli de la puissance de Dieu. Daniel parlait tantôt des langues de feu. Moi, j'ai déjà eu une vision quand j'étais jeune, au début de la vie chrétienne, après avoir été rempli du Saint-Esprit, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. J'étais assis sur une... Il y avait un stage, j'étais assis. Puis là, je préparais souvent mes messages. Puis je me prenais bien des notes parce que j'étais inquiet, j'avais peur d'en manquer, puis qu'est-ce si je manque de mon message, etc. J'étais inquiet. Et là, un jour, au Seigneur, j'ai eu une vision durant la nuit. J'étais assis sur une chaise, il y avait un stage, j'étais assis sur une chaise, et il y avait un homme ici, en avant de la tribune, avec une robe blanche. Un homme avec une robe blanche. Et là, j'étais assis, et là, il se revirait comme ça, puis il me parlait, il me dit, « Moi, je vais t'enseigner comment prêcher la parole de Dieu. » Pas toi qui vas choisir, etc. Mais moi, je vais t'enseigner. Et là, il commençait à prêcher, puis il y avait des flèches qui sortaient de sa bouche, puis ça s'en allait dans le cœur. Et là, les gens se mettaient à pleurer. Les gens se mettaient à pleurer parce que c'était des paroles de feu, des paroles vivantes. Les flèches, les paroles touchaient et les gens les recevaient. Le message a été donné ce matin. C'est libre à nous de le recevoir ou pas. C'est libre à nous d'y croire ou pas. Mais une chose qui est sûre, le Saint-Esprit est là et la parole de Dieu nous parle. Il peut toucher nos cœurs et on est libre de le recevoir, frères et sœurs. Mais le Seigneur me montrait que, regarde, les paroles, c'était des flèches. Ça s'en allait direct dans les cœurs et les gens se mettaient à pleurer. Parce que les gens reconnaissaient leur faiblesse, reconnaissaient leur besoin de le recevoir, frère et sœur. Si tu penses de ne pas en avoir besoin, tu ne le recevras pas. Faut-tu croire, premièrement, et faut-tu le désirer. Dieu te demande juste de croire et de le désirer, de le demander. C'est une puissance. Tu vas falloir que tu t'abandonnes. Il va te faire faire des choses. Peut-être tu dis que tu es gêné, il va te faire élever dans une foule, puis il va te dire, « OK, prie. » C'est là l'important d'être prêt puis d'être rempli du Saint-Esprit. Amen.